Chapitre 85. Un banc de nuages cachait la lune et les eaux du lac dessinaient une masse noire d'une rive à l'autre, dans un silence que pas même les insectes ne venaient troubler. Harley avait eu l'occasion de le vérifier à ses dépens. Toute évasion était impossible pendant la journée. Quant à passer par la forêt, c'était impossible de nuit. Le faisceau d'une torche les attirerait aussi sûrement qu'une lumière extérieure attirait les papillons nocturnes. Les bois formaient pourtant un dédale de chênes, d'érables, de noyers et de cornouillers, mais ils s'en jouaient sans peine. Eux, les imposteurs. On aurait pu croire qu'ils avaient planté eux-mêmes chaque arbre, selon un schéma savamment mémorisé. Harley Higgins, qui avait fêté ses 14 ans le jour même, se glissa le long de la rive en évitant les espaces sablonneux, afin de ne pas laisser d'empreintes derrière lui. Il se glissa dans le terrain du grand hôtel de Haut-Fourneau-le-Lac et gagna la petite marina où étaient arrimés les canots à moteur, les barques et autres pédalos réservés aux touristes. À 2 heures du matin, l'endroit était désert et suffisamment éloigné de l'hôtel pour qu'Harley soit tranquille. Emprunter l'un des canots était encore le moyen le plus rapide de traverser le lac. Leur moteur électrique était parfaitement silencieux et ne risquait pas d'attirer l'attention des imposteurs. Mais on ne pouvait les faire démarrer qu'avec une clé, et celle-ci était enfermée dans le bureau de la marina. Les barques, en revanche, étaient sagement amarrées à leurs anneaux, leurs avirons rangés sur le banc de nage. Harley s'assit sur le ponton, arrima ses pieds au plat-bord de l'une des barques qu'il tira vers lui, avant de se glisser sans bruit à l'intérieur de la coque. À genoux sur le banc de nage, il dénoua la corde de l'anneau et repoussa le ponton avec un aviron dans le murmure discret de l'eau à peine troublée. Puis il se servit de l'aviron comme d'une rame de gondole, en s'appuyant sur le fond du lac pour s'éloigner du bord, avant de se diriger vers le nord où s'étendait la rive la plus éloignée. Il passa les avirons dans les dames de nage et rama, en évitant de trop faire grincer celle-ci, pourtant bien graissée. Le lac ne lui faisait pas peur, car il n'était peuplé d'aucun animal dangereux. Même s'il avait abrité des requins ou des alligators, il n'aurait pas hésité un seul instant à le traverser à la nage. Cela faisait plusieurs semaines qu'il était sage comme une image, afin de donner l'impression qu'il s'était enfin résigné à sa nouvelle vie. Il évitait de contredire les adultes et ne poussait plus les autres gamins à la rébellion. Il avait même fait semblant de prendre du plaisir à manger son gâteau d'anniversaire et la glace qui l'accompagnait, comme si cette fête sans cadeau n'était pas une mascarade. Surtout, il avait cessé de se plaindre d'être emprisonné. Les imposteurs n'appelaient pas ça une prison, bien sûr. Ils prétendaient que c'était une école, bien qu'on n'y enseigne rien. Une école sans classe, sans manuel scolaire, sans leçons à apprendre. Au même titre que les 7 autres enfants, Harley avait le droit de regarder la télé ou de s'amuser à des jeux vidéo autant qu'il le souhaitait. Mais il lui était interdit de parler à quiconque en dehors des habitants de la petite ville. Les imposteurs prétendaient que le sort réservé aux 8 enfants était normal, qu'on avait toujours procédé de la sorte depuis des générations. Ils paraissaient même sincères dans leurs explications, alors que c'était un tissu de conneries. Harley s'était retrouvé dans cette prison 10 mois plus tôt, au mois de mai de l'année précédente, 2 mois après ses 13 ans. Les autres s'imaginaient-ils vraiment qu'il n'avait gardé aucun souvenir de sa vie d'avant, à l'époque où il était libre de prendre son vélo et de se rendre en ville où il prenait le bus chaque matin pour aller dans un vrai collège à 20 bornes de là? La rive sud du lac s'éloigna lentement. À l'est, les lumières de la petite bourgade se reflétaient dans les eaux sombres 6 kilomètres plus loin. La rive occidentale, plus éloignée, abritait de nombreuses villas, mais tout était plongé dans l'obscurité du fait de l'heure tardive. La berge nord du lac, en direction de laquelle il ramait, était restée à l'état sauvage. Harley avait décidé d'y échouer sa barque, de traverser les prés jusqu'à Lakeview Road et de rejoindre la grande route. Il avait bon espoir d'être pris en stop par un chauffeur routier et de se rendre jusqu'au bureau du shérif du comté, voire de prévenir la police d'État du Kentucky. Les routiers sont des gens sympas qui travaillent dur et sur lesquels on peut compter, Du moins était-ce l'avis de Virgil Higgins, l'oncle d'Harley, jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à son oncle et qu'un imposteur prenne sa place. Depuis lors, il n'était plus question de croire un mot de ce qu'il racontait. Harley ne savait pas s'il arriverait à convaincre la police des changements intervenus chez les habitants de Haut-Fourneau-le-Lac, mais du moins, parviendrait-il à éveiller suffisamment les soupçons des flics pour qu'ils se demandent par quel étrange tour de passe-passe les gamins de moins de 16 ans avaient tous été retirés le même jour de l'enseignement public afin de fréquenter un établissement privé où l'on n'enseignait rien. Harley avait parcouru un tiers de la distance lorsqu'il passa à la vitesse supérieure, sans s'inquiéter du bruit des avirons à la surface de l'eau, tout en sachant que les sons portent loin la nuit. En dépit de sa bonne forme physique, il commença rapidement à ressentir les effets de la fatigue. Ses bras pesaient des tonnes. Sa nuque n'était plus qu'une masse de nerfs irrités par l'effort. Le lac lui paraissait plus grand la nuit qu'il ne l'était en plein jour. Même sans lune, il ne pouvait tout de même pas avoir changé de direction à son insu. Pour preuve, les lumières de la ville à sa droite, comme celles de l'hôtel dans son dos, lui confirmaient qu'il avançait dans la bonne direction. Le mieux était de continuer à ramer sans s'inquiéter, jusqu'à ce que l'avant de la barque s'échoue enfin sur le bord du lac. Il rentra les avirons, sauta dans l'eau et pataugea jusqu'à la berge où l'attendait une plage de galets qui bruissèrent sous ses baskets trempées. Il traversa la plage en quelques enjambées, en longeant la barrière des arbres sur sa gauche. Une légère brume s'enroulait autour des troncs, donnant l'impression de s'élever des rochers, et une forte odeur de terre s'échappait de la forêt. Il parvint à l'orée d'un pré escarpé qu'il traversa en humant les effluves de feuilles mortes décomposées abandonnées par l'automne précédent. Au sommet de la pente se trouvait le ruban sombre de Lakeview Road, de l'autre côté duquel l'attendaient trois véhicules, dont le Range Rover de son père. Cinq silhouettes émergèrent de l'ombre, leurs visages formant des taches grises dans la nuit sans que le moindre reflet de lune vienne éclairer leurs yeux. On aurait dit des mannequins aux têtes en toile de jute percées de trous noirs. La grand-route se trouvait à 5 kilomètres de là, si bien qu'Harley n'avait pas la moindre chance d'échapper à la meute. Il n'aurait pas couru 100 mètres avant d'être rattrapé. Il aurait été totalement abattu s'il ne s'était pas à moitié attendu à ce dénouement. Tout en voyant se briser son rêve d'évasion, il en avait tiré une leçon essentielle qui lui permettrait de réussir la prochaine fois. Les cinq hommes restèrent immobiles à un bon moment, sans échanger une parole, enveloppés par des écharpes de brume, tels des esprits malveillants qu'une nature en colère aurait façonnés à l'aide d'humus afin de les envoyer combattre l'humanité. L'imposteur qui se faisait passer pour Boyd Higgins traversa la route et posa une main sur l'épaule de Harley. « Allons, fiston. Suis-moi. Tu as besoin de dormir. » Harley se dégagea.
« Ne m'appelle pas fiston. Je ne suis pas ton fils. »
« Il reste de la glace et du gâteau. Tu pourras en avoir une part avant de te coucher, si tu veux. » Il n'eut pas d'autre solution que de traverser la route, monter dans la Range Rover et s'affaler sur le siège passager ceinture bouclée. Le 4x4 démarra, précédé par un Chevy Silverado et suivi d'une Honda Accord, comme s'il s'agissait d'escorter un tueur en série au terme de sa cavale.
« Je te déteste !» gronda le gamin.
« Tu sais, ça ne me fait rien du tout quand tu dis ça, » réagit le faux Boyd Higgins. « Je sais bien que tu ne le penses pas. »«
Putain que si !»
« Pas de gros mots, fiston. » Ton âme risque d'emporter les stigmates. On t'aime avec ta mère. On sait que tu es malade, mais tu dois savoir que nous serons toujours là pour toi.
Je ne suis pas malade!
Tu souffres d'un trouble de la personnalité, Harley.
Et voilà que tu recommences avec ces conneries.
Grâce au ciel, nous savons que c'est temporaire. Tu as du mal en ce moment. Et nous aimerions pouvoir t'aider davantage.
Parce que tu crois vraiment que je souffre d'un putain de trouble de la personnalité?
Exactement.
Dans ce cas, comment se fait-il que vous ne m'emmeniez pas consulter un psy? C'est encore à l'école que tu reçois le meilleur traitement, Harley. Tu parles d'une école. Il n'y a ni prof, ni classe, ni leçon.
Le faux père hocha la tête en souriant.
Ce n'est pas une école comme les autres. Comme je te l'ai expliqué mille fois, c'est une école qui te permet d'attendre.
Il faudra m'expliquer le concept.
L'imposteur retira une main du volant et tapota l'épaule d'Harley dans l'espoir d'apaiser sa colère.
Ne crois pas une seule seconde qu'on soit dupe,
réagit Harley, exaspéré par tant de condescendance.
Avec les sept autres, on sait bien que vous êtes des imposteurs.
Je sais, tu me l'as assez suriné. C'est dû à ta maladie, Harley. Tu es convaincu que nous sommes des robots ou des zombies, mais ça vous passera une fois que vous aurez reçu le traitement.
Le traitement, tu dis ?
Oui.
On ne recevra jamais le moindre putain de traitement.
Pas de gros mots, fiston, c'est mal élevé.
C'est quoi cette idiotie de traitement ?
Tu comprendras le jour venu.
Ils atteignirent l'extrémité nord-est du lac et la petite ville leur apparut.
Tu ne me fais pas peur, tu sais.
Tant mieux, fiston. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Personne n'a jamais levé la main sur toi et ça ne risque pas d'arriver.
Le faux père d'Harley ressemblait à s'y méprendre à Boyd Higgins et il avait la même voix. À ceci près que le vrai Boyd Higgins n'avait jamais menti à son fils ou fait preuve de condescendance à son endroit, alors que cet imposteur était un menteur de merde paternaliste.
Tu es un menteur de merde paternaliste.
L'imposteur secoua la tête d'un air amusé.
Tu dis ça parce que tu es malade, mais ça passera quand tu seras guéri.
Si t'étais vraiment mon père, tu me punirais pour avoir osé dire un truc pareil.
Tu sais, fiston, si tu avais perdu tes deux jambes, je ne te punirais pas au prétexte que tu ne peux plus marcher. Alors je ne risque pas de te punir parce que tu es malade.
Le convoi de trois véhicules traversa le bourg. Pour un lieu aussi modeste, Haut-Fourneau-le-Lac comptait un nombre impressionnant de magasins de souvenirs, de galeries d'art et de restaurants, tous alignés sur la rue principale au trottoir de briques éclairé par des réverbères à l'ancienne. Outre les riches clients que le grand hôtel accueillait à longueur d'année, la ville était une destination touristique prisée des habitants de Nashville, de Louisville ou de Lexington, qui venaient régulièrement y passer la journée. Les grands conifères aux épines bleu-vert qui poussaient des deux côtés de la rue étaient décorés en permanence de milliers de lucioles, ce qui avait donné l'idée à la chambre de commerce locale de surnommer Haut-Fourneau-le-Lac la ville du Noël éternel. Harley avait adoré grandir auprès de parents qui tenaient le Paradis Higgins, une boutique proposant des sandwichs et des glaces, mais le haut fourneau de son enfance avait disparu, et il n'avait plus le droit de s'y promener librement. Les vieux immeubles et les commerces, fermés à 7 heures, n'avaient pas changé, mais la magie accueillante d'autrefois avait pris un tour sinistre. Les véhicules quittèrent la ville en direction du Grand Hôtel, qui brillait de tous ses feux 3 kilomètres plus loin.
Je te l'ai déjà dit 100 fois, mais ça ne me dérange pas de te le répéter si ça peut t'aider. Vous êtes en attente à l'école parce que votre maladie se guérit toute seule avec le temps. Alors on attend que ça passe.
Jusqu'à mes 16 ans, c'est bien ça?
Exactement.
En attendant, je suis en tôle.
Allons, mon Harley. Évite de me torturer inutilement. Tu sais bien que ce n'est pas une prison. Tu as tout ce dont tu as besoin, tu manges bien et tu vis au grand air.
Harley avait envie de hurler jusqu'à l'épuisement de ses forces. Il savait pertinemment qu'il n'était pas fou.
D'un autre côté, ne disait-on pas que les vrais fous passent leur temps à hurler dans les asiles d'aliénés ?
J'ai lu un bouquin consacré aux troubles de la personnalité, dit-il avec calme.
Tu as bien fait. Connais-toi toi-même, comme on dit.
J'aimerais bien me documenter encore davantage.
Pas de souci, fiston. On t'a toujours fourni les livres que tu réclamais. On t'encourage à lire avec ta mère. On s'en fiche, même s'il s'agit de romans un peu osés, tant que ça t'aide à passer le temps. L'essentiel est que tu restes à l'école. Quel trouble de la personnalité se guérit tout seul quand on a 16 ans ?
Le tien, fiston.
Et comment s'appelle ma maladie exactement ?
L'imposteur éclata du même rire que Boyd Higgins.
Seigneur, j'ai passé ma vie à préparer des sandwichs et des coupes de glace. Je ne suis pas vraiment outillé pour retenir des termes médicaux à rallonge.
Mais pourquoi 16 ans ?
Si j'ai bien compris, c'est le moment où le cerveau achève de se développer. Il faut donc attendre cet âge-là pour que tu sois prêt.
Prêt pour quoi ?
Prêt à surmonter ta maladie.
Du jour au lendemain ?
Exactement.
Dans 2 ans, précisa Harley, alors que le Range Rover passait devant l'entrée du grand hôtel.
Tu n'imagines pas le soulagement que ce sera pour nous, fiston, de retrouver le Harley d'autrefois.
Harley hésita avant de demander.
Je serai vraiment comme autrefois ?
Bien sûr, puisque c'est une maladie qui ne dure pas.
Ils poursuivirent leur route en silence dans la nuit.
Papa, reprit soudain Harley, tu trouves pas complètement dingue, ou au moins très étrange, que tous les enfants de moins de 16 ans de la ville aient la même maladie et que personne ne leur apprenne rien en attendant qu'ils soient guéris du jour au lendemain, le jour de leurs 16 ans ? Tu trouves pas ça trop bizarre et complètement anormal ?
Boyd Higgins, si c'était bien lui, fronça les sourcils, les yeux rivés sur la route, et garda le silence pendant près d'un kilomètre. Un sourire finit par éclairer son visage.
« Tu n'as rien besoin d'apprendre, Harley, puisque tu sauras tout quand tu auras 16 ans. »«
Je saurai tout. Tout quoi ?»«
Tout ce que tu as besoin de savoir, et rien de ce qui est inutile. Tu verras quand tu auras 16 ans. »
6 kilomètres plus loin, le Chevy Silverado ralentit, exécuta un demi-tour et repartit en direction du bourg, imité par la Honda Accord. L'imposteur freina à son tour et s'engagea dans une allée menant à une haute grille percée dans une enceinte. Il baissa sa vitre, enfonça un bouton et s'identifia. La grille s'écarta sur ses roulettes.
« Je t'en supplie, pas ça !»
l'implora Harley.
« Tu verras, fiston, tout ira bien. On s'occupe bien de toi ici. »
« J'ai l'impression de devenir cinglé. »
« Ce n'est pas le cas, mon fils. »«
Peut-être que si. » »«
Je t'assure que non. »
Ils franchirent la grille et remontèrent l'allée jusqu'à un bâtiment qui n'avait rien d'une école. Harley n'avait pas menti en affirmant à l'imposteur qu'il n'avait pas peur de lui. Il avait des craintes autrement plus angoissantes, notamment celle de passer 2 années de plus dans cet endroit. Il redoutait surtout d'avoir un jour 16 ans. Il était terrifié à l'idée que ce Boyd Higgins ne soit pas un imposteur, mais son père métamorphosé en un être radicalement différent de celui qu'il avait été. L'allée conduisait à une vaste demeure précédée d'un portique à colonnes, sous le plafond à caissons duquel attendaient 2 employés de l'école, une femme qui se faisait appeler Norine et un certain Harvey. L'imposteur et Harley descendirent du Range Rover. Le premier fit le tour du véhicule et serra le second dans ses bras, comme l'avait toujours fait Boyd Higgins. Il l'embrassa sur le front, puis sur la joue, comme l'aurait fait Boyd Higgins.
« Je t'aime de tout mon cœur, fiston, » déclara-t-il.
Car Boyd Higgins avait toujours manifesté son affection à l'endroit des siens avec beaucoup de facilité.
Harley sonda ses yeux bleu-vert et constata qu'il avait le regard chaleureux de son père. En plus de l'amour qu'il y lut, il crut discerner une ombre mouvante comparable à celle qu'il voyait parfois par beau temps dans les eaux du lac lorsqu'il s'y promenait en barque. Une silhouette à ailerons aussi mystérieuse que le plus grand des mystères du monde. L'ombre qui flottait au fond des yeux de l'imposteur n'était pourtant pas aussi pure que celle d'un poisson au fond du lac. Elle était avant tout le reflet de son tourment, comme si cet homme qui lui faisait ses adieux avait brièvement conscience de commettre une grave injustice. Et puis les yeux se voilèrent sous la pression de quelque puissance indicible, et l'imposteur perdit toute conscience de la détresse de l'enfant. Il sourit, remonta au volant du Range Rover et démarra, abandonnant Harley avec la certitude terrifiante qu'il avait été conduit jusque-là non par un robot ou un zombie, mais parce qu'il subsistait d'un individu empreint de bonté, nommé Boyd Higgins.